Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va...
Je dirais pas traverser l'Atlantique, non.
Découvrir un bouquin de Michael Moore. Vous vous souvenez, cette espèce de bonhomme rigolo, tout rond, jeune, qui a un sens de l'humour extraordinaire et qui s'en sert comme arme. Les éditions La Découverte ont présenté son travail comme étant l'arme de dérision massive. Alors, étudions l'arme de dérision massive. Regardons les choses en face, dit Michael Moore. Presque toutes les familles américaines ont leur vilain petit canard réactionnaire, et vous n'y pouvez pas grand-chose. C'est une vérité statistique incontournable. Pour deux Américains aux idées progressistes, il y en a un qui regrette les beaux jours où les Noirs se tenaient à leur place, et où vous pouviez violer votre petite amie sans craindre de conséquences pénales. J'ai l'impression de les avoir presque tous rencontrés depuis un an. Ce sont eux qui m'écrivent presque tous les jours des missives brûlantes d'une ferveur politique qu'on rencontre rarement de mon côté de la barricade. Certains m'interpellent dans la rue et essayent de m'engager dans une controverse enflammée. À l'occasion, je leur demande s'ils ne veulent pas venir prendre un café avec moi. Je n'essaie pas de polémiquer, je me contente de les écouter délirer à propos de Bush, de l'insanité de la gauche et de la perfidie des coloreds et des mères célibataires du ghetto qui dévorent le budget de l'aide sociale. Ils en ont gros sur la patate et leur litanie d'invectives est interminable. Sans compter que dans leur véhémence, elles sont toujours à peu près semblables, comme si elles étaient tirées du scénario de Conan le barbare. Leur aspiration fondamentale est apparemment de nous débarrasser de l'engeance proliférante de philanthropes multiculturalistes aux tendances sodomites qui infestent la planète. Et pourtant, si vous les écoutez attentivement, et avec suffisamment de patience, vous finirez par percevoir derrière toute cette logomachie le faible écho d'un pathétique appel à l'aide. Il est évident qu'ils souffrent, et le mal qui les taraude et les entraîne au bord de la folie a un nom bien précis. Dans le fond, ce sont des gens qui ont peur. Très, très peur. Et ils ont peur parce qu'en fin de compte, ils sont ignorants. Ils sont ignorants de pratiquement tout ce qui se passe vraiment en dehors de leur petit monde. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que d'être noir ou de vivre dans la misère, ou d'avoir envie d'embrasser quelqu'un de votre sexe. Cette ignorance fondamentale suscite en eux un état de peur incontrôlable et permanent. Cette peur se manifeste alors sous forme de haine. Et tout ça finit généralement très mal, très très mal. Ils sont consumés par un terrible désir de nuire. Et s'ils ne passent pas eux-mêmes à l'acte, et ils ont en général trop peur pour ce faire, ils espèrent alors que le gouvernement agisse en leur nom. Supprimer l'aide sociale, licencier. Ce ressentiment n'est pas seulement politique. Il prend un tour intime et personnel, comme peuvent en témoigner tous ceux qui l'ont vu à l'œuvre chez un conjoint, un parent ou un voisin. Elle est fort amère, l'existence de celui qui, chaque matin, se réveille avec la haine au cœur. La haine envers tout ce qui n'est pas lui ou elle. Je ne connais pas de thérapie susceptible de soigner cette maladie et l'industrie pharmaceutique n'a pas encore trouvé l'antidote à ces accès de rage idéologique. En réalité, l'industrie pharmaceutique a besoin des électeurs républicains pour éviter que l'État vienne mettre le nez dans ces pratiques douteuses. Elle n'a donc aucun intérêt à ce qu'on trouve un remède à la pathologie de tous ces hommes blancs en colère. Je suis profondément convaincue que nombre de ces conservateurs peuvent évoluer. Je suis certain qu'on peut les aider à réfléchir de façon différente aux problèmes qui nous préoccupent et à les leur faire percevoir sous une lumière nouvelle, sans pour autant les obliger à abandonner les valeurs profondes auxquelles ils tiennent. Je suis convaincue que nombre d'entre eux sont aveuglés par leur propre colère et manipulés par une propagande qui cherche à les chauffer à blanc. Capitalistes, prédicateurs ou politiciens, ceux qui nous gouvernent connaissent fort bien les ressorts qu'il convient d'actionner pour faire d'honnêtes citoyens des partisans de la réaction. Je crois qu'il est possible de combattre cette tendance et de convertir votre beauf, votre beau-frère, je voulais dire. Je sais, vous allez dire, oh là là, du calme, je suis pas missionnaire. Surtout pas si ça veut dire que je dois fréquenter ce genre de crétin. Et pourtant, ne désirez-vous pas voir les choses changer? Changer progressivement, certes, mais vraiment et durablement. Et pendant même le cours de votre existence. Ne souhaiteriez-vous pas scier la branche sur laquelle repose cette soi-disant majorité conservatrice qui sature le congrès d'élus républicains? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous amuser un peu aussi? Ouais, vous verrez au cours de cette émission et d'autres que j'emprunterai à Michael Moore, vous verrez à quel point notre société soi-disant héritière des Lumières et de la Résistance, est en train, depuis longtemps, de s'américaniser de plus en plus. Je crois que la seule différence, et elle n'est pas à notre avantage, c'est que nous, on refuse de se faire ranger dans une case ou dans l'autre, quand il n'y a que deux cases. On prétend être plus malin et on a créé des tas de cases. Mais les cases en question, justement, en ce moment, en 2023, on voit bien que finalement, en réalité, il n'y en a quasiment que deux. Revenons chez les Américains. Je ne vous demande pas de convertir les fanatiques irrécupérables. On ne fera pas changer d'idée les frappés de l'extrême droite fondamentaliste. Ils sont trop profondément enfoncés dans leur délire. Et sincèrement, ils sont trop peu nombreux pour qu'on s'en soucie. Ouais. Non, ce dont je vous parle, c'est de gens que vous connaissez et même que vous appréciez. Ce sont souvent d'excellents parents, d'agréables voisins, qui soignent leur façade et leur jardin, d'honnêtes paroissiens, toujours prêts à participer aux bonnes œuvres de la communauté. Et, hélas, d'imperturbables électeurs républicains. Comment de si braves gens peuvent-ils voter systématiquement pour le parti d'Attila,
le 1 ?
J'ai une théorie. Ces gens-là ne sont pas vraiment républicains. Républicains est juste un mot qu'ils associent à de vagues idées, de traditions, de sens commun et d'épargne judicieuse. Alors ils adoptent l'étiquette. Après tout, quel est le premier républicain dont vous ayez entendu parler à l'école ? Le bon Abraham Lincoln. Tellement brave type qu'on l'a collé à la fois sur la pièce de 1 cent et sur le billet de 5 dollars. Et en plus, vous lui devez une journée de congé scolaire. Je vous le dis, ces gens-là sont des rhinos, sans H. Des rhinos, des républicains qui n'en ont que le nom. Republicans in name only. R-I-N-O. Hélas, avec un S, il y a des tas de rhinos. De ce côté-là de l'Atlantique aussi. Posez-leur une série de questions. Êtes-vous pour la protection de l'environnement ? Accepteriez-vous des voisins noirs ? Pensez-vous que la guerre soit une bonne solution pour résoudre nos conflits avec d'autres pays ? La plupart du temps, leur réponse ne correspondra pas aux clichés républicains. J'ai une amie qui se définit elle-même comme républicaine. Mais quand je lui demande si elle pense que les femmes devraient être payées pareil que les hommes, elle me répond « On devrait même être payé plus !» Quand je lui demande si elle estime que les gens devraient être libres de jeter leurs ordures dans le lac près duquel elle vit, elle me rappelle qu'elle fait partie de la direction du comité local de défense de l'environnement. Quand je lui demande comment se porte son fonds de placement depuis que ses amis républicains ont réussi à se débarrasser de ce menteur de Clinton, elle me répond « Je préfère même pas en parler. » Alors je lui pose la question suivante. « Vu que tu as perdu des milliers de dollars grâce à la gestion économique de Bush, que les républicains sont prêts à laisser faire de ton joli petit lac un véritable dépotoir et que tu es persuadé que de jouer des mêmes droits que les mecs, pourquoi est-ce que tu t'obstines à te proclamer républicaine ? » À quoi elle me répond du tac au tac ? Parce que les démocrates veulent augmenter mes impôts. Ça fait pas un pli. Ça fonctionne comme un mantra. Même si les rhinos n'ont guère confiance dans le programme républicain, même s'ils savent que les républicains vont leur empoisonner la vie, ils restent accros à l'étiquette républicaine. Pour une seule et bonne raison. Ils sont persuadés que les démocrates vont leur piquer les économies qu'ils ont eu tant de mal à accumuler. Je suis convaincue que la majorité des Américains sont progressistes. Mais si nous voulons remettre ce pays sur la bonne voie de façon définitive, nous avons intérêt à gagner les voix de quelques millions de ces rhinos. Ils n'attendent que ça. Ils sont prêts à sauter par-dessus la barricade, pourvu qu'ils puissent amener leur porte-monnaie avec eux. J'ai tout un tas d'idées pour renforcer notre majorité en conquérant nos amis et nos proches rhinos. Certains requièrent un peu plus d'humilité de notre part. En tout cas, je suis sûre que nombre de mes suggestions peuvent marcher. Il est temps de disputer à la droite ce vaste marais qu'il a trop longtemps soutenu passivement. Et puis, dans le pire des cas, si vous suivez mes conseils, vous obtiendrez au minimum un dîner de Thanksgiving ou de Noël chez nous, nettement moins agité. Premièrement et avant toute chose, vous devez convaincre vos amis et vos parents conservateurs que vous n'en voulez pas à leur argent. Vous ne souhaitez nullement qu'ils gagnent moins d'argent, pas plus que vous ne souhaitez les voir perdre l'argent qu'ils ont déjà gagné. Expliquez-leur, d'entrée, que vous savez qu'ils aiment leur argent et que ça tombe à pic parce que vous aussi vous aimez le vôtre. C'est un autre genre d'amour, voilà tout. Deuxièmement, tous vos arguments politiques doivent être exclusivement fondés sur leurs préoccupations et sur ce qui est bon pour eux. Chacune de leurs décisions dans la vie repose sur un seul et unique critère. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, personnellement ? Au lieu de combattre cette forme d'égocentrisme, acceptez-la, approuvez-la, nourrissez-la. Montrez-leur ce qui est bon pour eux. Les gens de droite vivent leur existence à la première personne du singulier. Je, moi, mon. Et c'est ce tropisme pronominal que votre langage doit adopter si vous voulez vous faire entendre. Troisième idée. Explorez à fond la mentalité conservatrice. Vous devez à tout prix vous aventurer dans ce continent obscur si vous voulez que votre entreprise de conversion soit couronnée de succès. Ce que vous allez rencontrer dans cette vaste contrée, c'est la peur de la délinquance, la peur des ennemis, la peur du changement, la peur de la différence. Et bien entendu, la peur de perdre de l'argent, quelle qu'en soit la cause. Ce qu'ils ne peuvent pas observer de leurs propres yeux, il n'y a pas de couple mixte dans leur quartier. Ils en ont peur. Ce qu'ils ne peuvent pas toucher du doigt, par exemple 3 siècles d'esclavage, ils n'en comprennent pas les conséquences. Et s'ils ne sentent rien, pas d'usine d'incinération dans leur secteur, ils sont convaincus que la planète est en bonne santé. Alors pour réussir, continuons. Idée numéro 4, respectez-les de la même façon que vous souhaitez être respectés. Nous leur demandons de respecter les autres et de s'intéresser à autre chose qu'à leur argent. Mais si nous-mêmes ne sommes pas capables de les traiter avec respect, de leur parler avec respect, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Cinquième proposition. Faites-leur savoir ce que vous aimez bien chez eux. Allez, soyez honnêtes. Vous savez bien qu'il y a des tas de choses que nous aimons bien chez les conservateurs, des choses en lesquelles nous croyons nous-mêmes, même si nous préférerions mourir que de l'avouer. Eh bien, avouez-le à votre beauf. Dites-lui que vous aussi, vous avez peur d'être victime de la délinquance et que vous souhaitez que les criminels soient punis pour leurs méfaits. Dites-lui que si l'Amérique est attaquée, vous serez le premier à vouloir défendre vos concitoyens sans défense. Dites-lui que vous non plus, vous n'aimez pas les resquilleurs et les picassiettes, du genre de ce colloque de vos années de fac qui non seulement ne faisait jamais le ménage, mais transformait votre appart en véritable porcherie. C'est comme ça que votre beauf se rendra compte que vous n'êtes pas si différent de lui. Dites-lui aussi à quel point vous appréciez le sens des responsabilités des gens comme lui. Quand vous avez besoin de faire une réparation, c'est votre beau fréac que vous appelez. Pas vrai? Normal, vous êtes nul en bricolage, et toutes vos saintes-nitouches de copains gauchos ne valent pas mieux que vous. Même chose quand vous avez besoin d'un boulot, qui est-ce qui vous embauche? Un patron bien conservateur, évidemment, vu que c'est pas votre autre beau-frère, un branleur gauchisant qui va vous trouver du travail. Bref, on a toujours besoin d'avoir un conservateur sous la main. Les conservateurs sont bien organisés, efficaces, cohérents, jamais en retard, et ils soignent leur apparence. Qualité fort estimable qu'on ne peut que leur envier. C'est vrai, quoi. Soyons honnêtes. Où ça nous a mené d'être inefficaces, dispersées, toujours en retard et mal peignées? Nulle part. Sachez reconnaître les qualités d'un Renault. Et vous verrez qu'il sera mieux disposé envers vous et même prêt à vous écouter. Oui, alors vous vous demandez déjà ce que fait cette lecture à Canal Sud. Bon. Méfiez-vous parce que ça va crescendo. Hein. Évidemment, Michael Moore veut convaincre des Renault. Il veut convaincre des gens dont le vote l'aiderait à retrouver une présidence démocrate. Eh bien, nous, c'est pareil. Donc, je vous demande, je ne dirais pas d'indulgence, mais je vous demande un petit peu de complicité. Parce que en continuant cette émission, vous verrez que Michael Moore, avec son humour féroce, s'offre le luxe de flirter avec le deuxième degré, si ce n'est pas le troisième, en matière d'humour politique. Alors, vous avez déjà entendu des choses bizarres. Cramponnez-vous, ça continue. Sixième proposition. Aïe, je sais que c'est dur. Reconnaissez les erreurs de la gauche. Vous allez me dire, et puis quoi encore ? Qu'ils aillent se faire voir, c'est vraiment pas à nous de faire notre autocritique. Et pourtant, si vous admettez ouvertement que vous avez pu vous tromper, il est plus facile pour votre interlocuteur de reconnaître que lui aussi a pu commettre des erreurs. Ça vous rend aussi beaucoup plus humain. Bref, vous ne passerez plus pour un connard auprès de votre beauf. Voici les premiers résultats de mes efforts d'autocritique. La drogue est néfaste. Les substances hallucinogènes nous détruisent lentement, diminuent vos capacités et pourrissent votre existence quotidienne. J'emmerde Nancy Reagan, mais elle a tout bêtement raison quand elle déclare « Dites non à la drogue ». Oui, les hommes et les femmes sont différents. Nous ne sommes pas du même genre. À tous les sens du terme, faut-il que je vous fasse un dessin? La nature et ou la société nous ont conditionnés de telle sorte que chacun des deux sexes a des habitudes, des désirs et des lubies qui lui sont propres. L'astuce, c'est de tout faire pour que ces lubies n'empoisonnent pas la vie de vos partenaires de l'autre sexe. Ainsi, par exemple, les femmes n'ont guère l'habitude de se saisir d'une arme à feu et de la décharger sur les gens dans la rue. L'éventualité que vous vous fassiez agresser par une femme un soir sur le trajet entre votre lieu de travail et votre domicile est proche de zéro. Ce sont là des lubies typiquement masculines. De même, je connais peu d'hommes qui trouvent utile de faire leur lit le matin. Pourquoi faire son lit? Qui va s'apercevoir qu'il n'est pas fait? À quoi ça sert? Et encore. Ce n'est vraiment pas une très bonne idée d'avoir des relations sexuelles avant l'âge de 18 ans. Oui, je sais, vous allez me dire que je suis jaloux, moi, Michael Moore, parce que j'ai dû attendre les 32 ans avant de faire l'amour. N'empêche que les galipettes adolescentes finissent souvent par se payer au prix fort. Par une grossesse non désirée, par des maladies vénériennes, ou par une grave déformation de l'oreille droite. Ou gauche, ça dépend de la position que vous adoptez, à force de l'attendre vers la porte d'entrée de peur que vos parents rentrent plus tôt que prévu. Est-ce vraiment ce que vous voulez? En plus, dans la mesure du possible, personne ne devrait faire un gosse avant d'avoir approché la trentaine. Vu que dans notre économie, fondée sur le servage, essayer d'élever des enfants tout en travaillant est un véritable calvaire. La télé maintenant. Alors chez eux, c'est MTV. Chez nous, on pourrait dire TF1. Et d'autres encore. Enfin, pour moi, c'est toutes les télés, sauf une ou deux. MTV, c'est de la merde. Il n'y a pas de pire façon de passer un après-midi que d'avaler toutes ces images de sexe, de violence et de reality shows minables, peuplées de participants qui ont eux-mêmes vu trop de reality shows. Pour le coup, mieux vaut faire l'amour, même si vous êtes adolescent, et couronner l'idylle en lisant un bon bouquin ensemble. Les barres chocolatées, même céréalières, c'est mauvais pour votre santé. C'est un produit qui regorge de sucre et de graisse. D'après une enquête diététique sur plusieurs marques, chaque portion individuelle en contient plus que 5 biscuits au chocolat ou une tranche de tarte orange-carotte. Rien de plus malsain que le végétarisme. Les êtres humains ont besoin de tout un tas de protéines. Laissez tomber les choux Bruxelles. Et faites-vous un bon steak bien juteux. Ouh là là. Et encore. Le soleil est bon pour votre santé. Votre peau nécessite au moins 10 minutes par jour d'exposition directe à la lumière solaire pour absorber sa dose indispensable de vitamine D. Arrêtez de tartiner vos gosses de crème à bronzer. Les auteurs de délits avec violence doivent être emprisonnés. Pas question de laisser les criminels battre la campagne. Oui, il faut les aider. Oui, ils ont droit à essayer de se réhabiliter. Oui, nous devons combattre les causes sociales de la délinquance. Mais personne n'a le droit de vous agresser ou de vous détrousser. Si vous n'êtes pas capable d'éprouver la moindre indignation face à un truand qui est prêt à vous prendre pour cible, alors... la plupart des gens normaux vous prendront soit pour un cinglé, soit pour une mauviette. En fait, ça me donne même envie de vous agresser là, tout d'un coup. La vie privée de vos enfants n'est pas un droit intangible, et vous feriez mieux d'avoir un œil vigilant sur leur comportement. En ce moment même, alors que vous êtes en train de lire ce livre, ils se livrent à une activité quelconque. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien manigancer? Ah, voyez que vous n'en avez pas la moindre idée. Lâchez-moi ce bouquin et montez immédiatement dans leur chambre pour voir ce qu'ils fabriquent. Et les 4x4 maintenant. Les véhicules à 4 roues motrices ne sont pas intrinsèquement diaboliques. Ce qui est diabolique, c'est le fait qu'ils consomment une telle quantité d'essence, qu'ils soient conçus comme des engins de mort et que leurs propriétaires soient trop souvent de sales faux culs qui les conduisent en ville. À part ça, les 4x4 sont surtout des véhicules horriblement inconfortables qui sautent tout le temps. Laissez tomber l'idée de retour à la nature. C'est idiot. S'il y a quelqu'un que la nature ne souhaite pas voir traîner dans les parages, c'est bien vous. C'est justement pour ça que les villes existent, pour vous éloigner de la nature. Bill O'Reilly, que je découvre dans ce livre, un réac de grand format, n'a pas toujours tort. Il est contre la peine de mort, il défend les droits des enfants et il est contre la zone de libre-échange des Amériques. Ça l'empêche pas d'être un connard, même si les connards ont parfois raison. Nous sommes souvent trop condescendants à l'égard des croyants. Nous les prenons trop facilement pour des crétins superstitieux qui vivent encore en plein 15e siècle. Nous avons tort. Et ils ont tout autant le droit de pratiquer leur foi que nous avons celui de refuser la religion. Cette arrogance est une des principales raisons pour lesquelles les classes populaires finiront toujours par s'aligner sur les républicains. Le discours de la gauche déborde de sentimentalisme hypocrite. À croire que nous avons forgé notre propre langage, ce qui a le don d'horripiler ceux qui nous écoutent parler. Laissez tomber le charabia politiquement correct. Cessez de jouer les saintes nitouches humanitaires. Et dites sans détour ce que vous pensez. Un peu moins de sensiblerie et un peu plus de rentre-dedans, bordel! Pourquoi vous excitez comme ça sur les délires d'Anne Coulter? La calamité Jane du journalisme réactionnaire de combat. Oui, moi je dirais chez nous, Christine Boutin par exemple. Mais il y en a d'autres. C'est vrai qu'elle est complètement frappée. Mais elle a plus de couilles à elle seule que toute la direction du Parti démocrate. Vous êtes simplement jaloux parce qu'on n'a personne de cette trempe dans notre camp. Et arrêtez de lorgner sur ses jambes. C'est pour ça que vous pédalez dans la semoule. Un réseau de radios progressistes?
N'importe quoi.
Vous avez dit radio?
Me faites pas rire. On est au 21e siècle, les gars. Pourquoi pas un pony express de gauche ou la voix du prolétariat en morse?
SOS, arrêtez! Atterrissez.
Ce qu'il nous faut, c'est une chaîne de télé, un réseau internet, Snoop Doggy Dog à la Maison Blanche et Public Enemy au Congrès.
Les droits des animaux, ça n'existe pas. Oui, il faut les traiter humainement. Oui, l'élevage des volailles en batterie, ça craint. Mais libérer les poulets, voilà bien une idée stupide. Ils sont bien incapables de survivre en liberté. Et en plus, ils risquent de se faire écraser par un camion. Arrêtez de nous pomper l'air avec votre campagne contre la nocivité du lait. Faut vraiment être crétin pour faire comme les types des SPA et aller à la télé déblatérer que la bière est moins nocive pour votre santé que le lait. Franchement, ce genre de conneries me donne envie de me défouler sur mon klebs. Une fois que vous aurez reconnu toutes vos erreurs, vous verrez que votre ami conservateur sera nettement moins sur la défensive et qu'il écoutera plus volontiers ce que vous avez à dire. C'est à ce moment-là que vous devez commencer à lui expliquer pourquoi il ou elle devrait essayer de voir les choses sous un autre jour. Le plus important, c'est de ne jamais lui faire la morale quand vous lui démontrez pourquoi il convient de réduire les dépenses militaires ou pourquoi tout enfant malade mérite d'être traité par un médecin. Ça fait des années que nous essayons de convaincre les conservateurs avec des arguments moraux. Et ça marche jamais. Alors ne gaspillez pas votre salive et rappelez-vous que ce qui les intéresse, c'est de savoir ce que eux, il gagne. Introduisez toutes vos démonstrations par la même phrase. Je connais un moyen de vous faire gagner plus d'argent. Et puis lancez-vous dans la discussion en utilisant les arguments suivants. Si vous payez mieux vos salariés, vous gagnerez plus d'argent. Mon cher beau-frère, si vous n'offrez pas à vos travailleurs un salaire suffisant pour satisfaire leurs besoins essentiels, c'est à vous et à tout un tas d'autres gens que ça finira par coûter cher. Si vos salariés doivent faire la double ou la triple journée pour pouvoir joindre les deux bouts, leur productivité en pâtira dans tous leurs emplois. Ils n'arriveront plus à se concentrer sur un seul et unique objectif, vous faire gagner plein d'argent. Ils seront anxieux, préoccupés par l'idée d'arriver à l'heure à leur autre boulot pour faire gagner de l'argent à un autre que vous. Surmenés, ils commettront beaucoup plus d'erreurs, provoqueront des accidents, quitteront leur poste de travail plus tôt et en général, leurs résultats seront nettement moins performants que s'ils travaillaient exclusivement pour vous.
Pourquoi accepter qu'ils consacrent leurs efforts à faire gagner de l'argent à un type qui vous est complètement étranger? Si vous leur payez un salaire décent, ils ne penseront plus qu'à vous satisfaire. Quand les travailleurs ne gagnent pas suffisamment pour vivre, ils finissent toujours par dépendre de l'aide sociale. Et qui est-ce qui finance l'aide sociale?
Vous!
Pourquoi payer plus d'impôts pour obtenir un tel résultat, alors que vous pouvez payer directement vos employés et passer pour un bon patron? Éliminez les intermédiaires et engrangez les bénéfices. Quand vos salariés obtiennent une augmentation, que croyez-vous qu'ils font de leur argent? Qu'ils achètent des actions? Qu'ils l'envoient sur un compte aux Bahamas?
Pas du tout.
Ils le dépensent. Et comment le dépensent-ils? En consommant les produits que vous fabriquez et vendez. Monsieur Ford l'avait bien compris. Les travailleurs sont aussi des consommateurs qui vous permettent de faire du profit parce qu'ils n'épargnent pratiquement rien. Ce sont eux qui hantent les rayons de magasins de bricolage et passent leur temps à acheter tout un tas de trucs dont ils n'ont pas vraiment besoin. Par conséquent, chaque dollar que vous et vos collègues, chefs d'entreprise, consacrez à leur salaire, fait presque aussitôt retour dans vos caisses sous forme de bénéfices accrus et d'augmentation de la valeur de vos actions. On appelle ça le ruissellement. Vous gagnez sur les deux tableaux. Si vous payez des gens une misère, ou si vous les virez, ils ne vous achèteront plus rien. Ils deviendront un boulet pour la société et l'économie. Certains sombreront dans la délinquance. Et quand ils s'y mettront pour de bon, c'est votre Mercedes qui les intéressera. Pas l'automobile pourrie de leur voisin fauché. Pourquoi souhaiteriez-vous jouer le rôle de victime? Payez un bon salaire, offrez des augmentations et des avantages sociaux. Et au moment de rentrer dans votre palais, vous saurez que vos employés ne sont pas en train de vous piquer vos enjoliveurs, mais plutôt de vous renvoyer la monnaie.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way.
Si tout le monde a une couverture maladie, vous gagnerez plus d'argent. Mon cher beau-frère, vous êtes chef d'entreprise et vos salariés ne sont pas couverts par une assurance santé? Voilà qui vous coûte fort cher. Quand ils sont absents pour maladie, vous perdez de l'argent. Si leur absence se prolonge, vous perdez de l'argent. Leurs collègues font des heures supplémentaires pour compenser cette absence. Vous perdez de l'argent. Ils rendent malades d'autres salariés, vous perdez de l'argent. Ils tombent malades pour cause de surmenage, vous perdez encore de l'argent. Mais les salariés qui bénéficient d'une bonne assurance vont aussitôt chez le médecin, se font soigner et guérissent plus rapidement. Si leur congé maladie est remboursé, ils restent chez eux un ou deux jours et retournent aussitôt au travail pour vous faire gagner de l'argent. Comme ils se sentent bien traités, ils apprécient plus leur travail et leur productivité augmente d'autant plus. Les salariés dont l'assurance couvre les visites chez le psy ou les traitements préventifs sont également plus productifs et se donnent beaucoup plus à leur entreprise. La dépense à court terme que représente le financement d'un plan de santé pour tous vos salariés offre des avantages à long terme qui, en fin de compte, vous feront faire des économies substantielles. Et si vous mettez une crèche à la disposition de vos salariés, vous gagnerez plus d'argent. L'absentéisme pèse lourd dans notre PIB. D'après certaines estimations, il nous coûterait pas loin de 50 milliards de dollars par an.
En moyenne, chaque employeur perd 800 dollars par an et par salarié pour cause d'absence non planifiée. Dans 45% des cas, ces absences sont dues à des problèmes personnels et familiaux. Ce qui veut dire que papa ou maman ne s'est pas présenté au boulot parce que la babysitter n'est pas venue, ou qu'elle se sent mal et a dû partir plus tôt que prévu, ou que les gosses sont malades et doivent aller chez le médecin, ou que le gosse de la babysitter a un problème à l'école et qu'elle doit s'éclipser, etc., etc. Tout cela, mon cher ami conservateur, coûte de l'argent à votre entreprise. Pour le prix d'une crèche, votre société gagnera plus d'argent. Vous-même gagnerez plus d'argent. Et les babysitters auront un vrai boulot et de vrais salaires. Et des millions de délinquants qui payent leur nounou au noir cesseront enfin de vivre dans l'illégalité.
I hoe a lass and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
Si vous vous syndiquez, vous gagnerez plus d'argent. Cette fois, je parle des travailleurs, pas des patrons. Vous êtes un salarié, mais vous vous considérez comme un conservateur. Vous haïssez les syndicats. J'aurais une seule question à vous poser. Pourquoi? Si vous voulez vraiment gagner plus d'argent, alors il n'y a rien de mieux que de se syndiquer. D'après le département du travail, les travailleurs américains adhérents d'un syndicat gagnent en moyenne 717 dollars par semaine. Les travailleurs non syndiqués, comme vous, gagnent pour leur part seulement 573 dollars par semaine. Si vous êtes conservateur, c'est bien parce que vous souhaiteriez gagner le plus d'argent possible, pas vrai? Alors pourquoi cette répugnance à vous syndiquer? Parce que vous n'aimez pas faire partie d'un groupe. Qu'est-ce que vous avez contre la démocratie? Certains syndicats ne sont pas démocratiques. N'y adhérez pas. Et lancez votre propre syndicat. L'Amérique est un pays libre, vous n'avez que ces mots à la bouche. Eh bien justement, un syndicat c'est ça, le droit de s'organiser librement. Et c'est un droit tellement important qu'il arrive en tête de la Déclaration des droits du citoyen. Si vous luttez contre la pollution, vous gagnerez plus d'argent. Chaque année, aux États-Unis, la pollution de l'air tue 70 000 personnes, soit le même chiffre que l'ensemble des victimes de cancer du sein et de la prostate. Les dépenses de santé liées à cette contamination sont estimées par le gouvernement à une somme qui oscille entre 40 et 50 milliards de dollars par an. D'après les résultats d'une enquête de 2003, les personnes qui vivent à proximité des 38 dépôts de déchets toxiques gérés par le programme Superfund de l'Agence de protection de l'environnement à New York, présentent des taux de cancer, d'asthme et de maladies respiratoires nettement plus élevés que la moyenne. Si vous n'habitez pas à New York, ne vous inquiétez pas, vous l'avez quand même dans le baba. Le programme Superfund, qui concerne le nettoyage des sites industriels contaminés, a été lancé en 1980. Il était financé par des impôts levés sur les entreprises, essentiellement auprès des géants du secteur chimique et pétrolier. En 1995, ces impôts ont été supprimés grâce à la collusion entre Washington et les lobbies industriels qui ne voulaient plus payer pour nous débarrasser de leurs propres cochonneries. En l'absence d'argent frais, le programme Superfund est en voie d'extinction et de fait, il devait disparaître en 2004. Ce qui veut dire que c'est nous, vous et moi, qui payerons désormais la facture du nettoyage de leurs déchets toxiques. En 1994, nous avons payé seulement 20% du coût de la décontamination, tandis que le reste était couvert par Superfund. En 1999, c'était encore moitié-moitié. Cette année, le coût prévu pour les contribuables est de 700 millions de dollars, de vos dollars.
Mais bon, il ne faut pas voir que le mauvais côté des choses. Bush est en train d'essayer de limiter le nombre de sites soumis à un programme de décontamination. Ça vous fera faire des économies, quoique si vous habitez aux environs de l'un des 1200 sites contaminés éparpillés à travers le pays, vous risquez de ne pas pouvoir en profiter pour cause de décès.
En matière d'économie d'énergie, les États-Unis sont en train de passer en queue de peloton des pays industrialisés. La Grande-Bretagne, le Danemark et l'Allemagne encouragent fortement le développement de l'énergie éolienne. Alors que nous, qui sommes le quatrième pays du monde pour la longueur du littoral, nous ne faisons pratiquement rien dans ce sens. Si nous arrivions à imposer à l'industrie automobile un standard de consommation de 6 litres au 100, rapidement, nous aurions déjà économisé une quantité de pétrole plus importante que toutes les réserves des parcs naturels de l'Alaska que Bush veut absolument exploiter. La meilleure façon de diminuer notre dépendance à l'égard du pétrole du Moyen-Orient, et d'ailleurs, c'est de consommer moins de pétrole. Cet objectif peut aisément être atteint en obligeant les industriels à produire des automobiles moins voraces en énergie. À part le fait négligeable que ce sera une bonne chose pour l'environnement, ça vous fera économiser des milliers de dollars par an, et peut-être même encore plus. Et si on met fin à la guerre contre la drogue, vous gagnerez plus d'argent. La répression et l'incarcération des consommateurs de drogue sont un immense gaspillage. L'internement d'un toxicomane nous coûte 25 000 dollars par an, alors qu'une thérapie coûte seulement 3 000 dollars. Même les traitements les plus onéreux ne dépassent pas 14 000 dollars par an, soit nettement moins cher qu'un séjour en prison. Pour chaque dollar de traitement, vous économisez 3 dollars destinés au salaire des policiers et des gardiens de prison. Et en plus, vous n'avez pas besoin de racheter l'autoradio qu'on vous a volé. La guerre contre la drogue nous coûte 20 milliards de dollars par an. Et pourtant, elle n'est qu'une succession de défaites. Tous ces hélicoptères qui survolent San Francisco à la recherche de plants de marijuana seraient nettement plus utiles dans la lutte antiterroriste. Ne laissez pas notre gouvernement s'enliser dans une guerre qu'il ne peut pas gagner. En outre, la prohibition n'a pratiquement aucun effet dissuasif sur la vente et la consommation. Elle signifie simplement qu'on vous interdit à vous, en tant qu'entrepreneur et investisseur conservateur, de tirer le moindre bénéfice de ce marché. Ce sont des salauds de malfrats qui encaissent tous les bénéfices. Or, vous détestez les malfrats. Alors pourquoi les laissez-vous empocher votre argent? Si on légalisait la drogue, imaginez un peu tout le fric que vous pourriez vous faire en satisfaisant la demande d'une société angoissée et désespérément en manque. On estime que les Américains dépensent 63 milliards de dollars par an en substances illégales. Et vous vous êtes fermé la porte de ce marché? Arrêtez de siroter votre martini et mettez-vous au boulot. Si vous investissez dans l'éducation publique, vous gagnerez plus d'argent. Quand le marché du travail sera submergé par une génération entière d'ignares et d'illettrés sortis de nos pathétiques établissements scolaires, comment diable allez-vous faire pour gagner de l'argent? D'ores et déjà, une bonne partie de vos salariés se révèle incapable d'écrire sans faute d'orthographe ou de diviser un nombre de plus de 2 chiffres. Et ils seraient bien en peine d'expédier un paquet en Bolivie, faute d'avoir la moindre idée d'où se trouve ce foutu pays. Vous vous demandez pourquoi on vous a piqué votre portefeuille, ou pourquoi au coin de la rue il y a un vaurien qui veut vous mettre une balle dans la peau. Voilà quelques statistiques pour vous aider à comprendre. 40% des détenus américains souffre d'analphabétisme fonctionnel. Fichtre, et comment ça se fait-il ? Entre 1980 et 2000, le budget de l'éducation a augmenté de 32%. Durant la même période, les dépenses destinées au système carcéral se sont accrues de 189%. Ah ben ça c'est malin. Et tous ces prisonniers, ça vous fait gagner de l'argent ? Que dalle ! C'est de la bonne et belle main-d'œuvre que l'État vous vole. Ce qui vous arrangerait, c'est que tous ces solides gaillards viennent bosser dans votre tôle, à vous. 75% des individus dépendants de l'aide sociale sont eux aussi analphabètes. Vous ne croyez pas que les choses seraient passablement différentes s'ils savaient lire et écrire ? Et je ne veux pas dire différentes pour eux, mais différentes pour vous. Imaginez toutes ces mères célibataires du ghetto qui pourraient trimer à votre service et vous faire gagner plus d'argent si elles n'étaient pas prisonnières de leur propre ignorance. Offrez-leur une éducation et c'est vous qui empocherez les bénéfices. Ça me dépasse complètement de constater que la droite n'exige pas que notre système éducatif soit capable de préparer correctement nos enfants à la vie professionnelle. Ça serait pourtant tout bénef de son propre point de vue. Plus ils seront qualifiés, plus vos salariés seront performants et innovants. Et c'est comme ça que vous deviendrez millionnaire. Au lieu de quoi, ces branleurs passent leur temps sur leurs ordinateurs à essayer de télécharger le dernier CD du groupe Weezer. C'est le résultat d'une politique absurde qui, depuis des années, consiste à faire passer des tonnes d'examens et de tests aux élèves sous prétexte de vérifier leurs connaissances et de les mettre tous au niveau. Résultat, les profs n'enseignent plus rien d'utile, à part ce qui sert pour les tests. Ça nous donne un tas de gosses qui connaissent toutes les réponses aux tests et sont par ailleurs parfaitement ignares. Je peux citer l'exemple d'un jeune qui travaille pour moi et qui croyait que le sigle UKA, United Kingdom, désignait la Russie et s'imaginait que procureur était un terme officiel pour désigner un dealer. Et c'est le moins inculte de mes employés. Au secours ! Ne votez plus jamais pour un républicain. Vous gagnerez plus d'argent. Bon, écoutez, je sais bien qu'il fut un temps où être républicain et voter républicain passait pour la meilleure manière de devenir riche. Mais c'est plus comme ça que ça marche aujourd'hui. Il y a 30 ans, si vous gagnez autour de 50 000 $ par an, vous étiez riche, vous aviez une belle maison et il y avait des centaines, voire des milliers de gens comme vous dans toutes les villes des États-Unis. Grâce au New Deal de Roosevelt, les rangs de la classe moyenne s'étaient considérablement renforcés. Et entre 47 et 68, le fossé entre riches et pauvres avait diminué de 7,5%. Il n'était pas si difficile de passer de la classe ouvrière à la classe moyenne. Et de la classe moyenne aux couches supérieures. La distance n'était pas si grande. À cette époque, un gosse de riche, ça pouvait être un fils de médecin, de dentiste, d'avocat, de comptable, d'agent immobilier, d'épicier ou de cadre moyen dans l'industrie automobile. Mais tout ça a commencé à s'effondrer dans les années 70, quand les inégalités de revenus se sont mises à croître. De nos jours, vos chances de devenir riche équivalent à zéro. À l'heure qu'il est, les 13 000 familles les plus riches du pays, qui représentent 0,01% de la population, contrôlent un volume de ressources équivalent à celui des 20 millions de familles les plus pauvres. 13 000 familles contrôlent un volume de ressources équivalent à celui des 20 millions de familles les plus pauvres. Et tandis que le 1% des plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 157% au cours des 20 dernières années. Et en 2023, c'est bien pire. La classe moyenne, elle, ne gagne qu'à peine 10% de plus. Seulement 10% d'augmentation de revenus pour la classe sociale dont les efforts ont engendré l'immense essor de prospérité des deux dernières décennies. Le médecin arrive à peine à joindre les deux bouts. L'avocat essaie de traiter un nombre suffisant de divorces pour payer ses factures et le cadre moyen, lui, il fait cuire des tortillas huileuses chez Taco Bell. Quant aux Républicains dont vous vous réclamez, ils ne veulent pas entendre parler de vous. Ce sont eux qui vous ont viré et qui vous obligent à faire le boulot de deux ou trois types à la fois. Ce sont eux qui ont raflé vos investissements et qui ont fait s'évaporer vos actions en bourse. Ce sont eux qui ont fait passer une législation fiscale qui ne profite qu'aux 1% les plus riches. Non seulement vous pouvez faire une croix sur vos économies, mais vous allez devoir payer plus d'impôts tout en constatant un net déclin de la qualité des services publics. Et ce, juste au moment d'entrer dans l'âge mûr. Ce sont les Républicains qui, en ce moment même, dépensent l'argent de vos retraites en projets aussi inutiles que dispendieux. Exactement comme chez nous, avec nos grands projets inutiles. Et essentiellement destinés à enrichir leurs potes. Bref, ils se payent votre tête et ils vous ont convaincu de répéter tous leurs slogans débiles. Et pendant ce temps, ils vous font tranquillement les poches. Ne soyez pas idiots. Les Républicains vous détestent, vous méprisent et n'ont strictement aucune intention de vous faire une place dans leur club. Réfléchissez un peu. Je ne dis pas que les démocrates sont la solution. Et si ça ne dépendait que de moi, nous aurions d'autres alternatives électorales. Comme chez nous. Mais posez-vous la question honnêtement. Est-ce que vos petites affaires de conservateurs n'allaient pas mieux sous Clinton? Bon, je sais, son côté beau gosse et charmeur vous horripilait. Et vous ne lui pardonnez pas cette histoire de pipe. Mais franchement, essayez de surmonter votre rancœur. Vous êtes en train de vous faire avoir, et vous le savez parfaitement. Mais vous ne voulez pas l'admettre pour ne pas passer pour un con. Vous n'allez pas passer pour un con. Personne ne va venir vous le reprocher. Tout le monde s'est fait coincer. Laissez tomber toutes ces inepties républicaines. Faites-vous inscrire comme indépendant pour les primaires et choisissez le parti ou la personnalité qui vous permettra de gagner plus d'argent. Si vous trouvez un candidat capable de promouvoir l'éducation, les bibliothèques publiques et une couverture de santé pour tout le monde, un candidat qui exige que nous cessions de vivre dans une société d'analphabètes et qui soutienne toute législation visant à augmenter les bas salaires, un candidat, enfin, qui fasse payer les super-riches qui ont amené ce pays au bord de la faillite. Alors votez pour lui, parce que c'est vous qui finirez par tirer les bénéfices. Rester républicain, c'est du suicide. Allez, chers beaux-frères, prenez votre courage à deux mains et jetez votre gourme. Ce n'est pas si terrible que ça. En plus, qui sait, votre prochain repas de Thanksgiving sera peut-être plus nettement détendu cette année. Ah, c'est sûr que sous Obama, ça devait être plus gai. Mais, nous faisons de l'histoire et on sait qu'après Obama, c'était pas la joie. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous, c'est important. C'est bien ce qu'il dit. Michael Moore. À bientôt, à la semaine prochaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra-t-elle?
ses doléances. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.